Bonjour à tous. C'est bon pour le son? En même temps, on n'est pas très loin. Hein. Le pain, c'est important, le pain, n'est-ce pas? Et on s'en rend compte quand on n'en a pas, ou qu'on n'a pas du bon. Et moi, je vais en Espagne souvent pour mon boulot, et donc du coup, avec les collègues, on parle souvent de pain. Parce qu'en Espagne, il est... Bon, parfois il est bon, mais souvent il est vraiment, vraiment... je sais pas comment... Ils font une croûte, et puis pas demi ou presque. Et ça, là, une croûte croustillante et une mie moelleuse, c'est très difficile à trouver. Donc on en parle beaucoup, et surtout quand on est français, et puisqu'on a le meilleur pain du monde, bien sûr. Et
De l'univers.
Et donc, quand on va à l'étranger, il est toujours moins bon. Ou si on est français et chauvin, ce qui est presque un pléonasme, mais il est carrément dégueu à l'étranger, quoi. Donc aujourd'hui, le texte parle de pain, bien sûr. Et la veille, Jésus a multiplié les pains. Et suite à ça, les gens veulent le faire roi. Mais Jésus a peur que ce ne soit pas pour une bonne raison. Et il va les bousculer un peu pour voir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Jésus ici dévoile encore des choses sur lui, et ça dérange, ça picote dans le dos même. Jésus choque ici, encore. Et à partir de là, il y a des gens qui décrochent, des gens qui lâchent. Et vous ? Est-ce que vous allez tenir le coup aujourd'hui ? Quelle va être votre réaction. J'espère que vous êtes bien accroché à votre slip ce matin, parce que ça va bouger un peu, ça va remuer. C'est pas moi, hein, c'est le texte. Hein. On va parler de cannibalisme aujourd'hui. Donc on continue notre série sur l'évangile de Jean. On est au chapitre 6. C'est la page 691. Au chapitre 5, on a vu un miracle le jour du sabbat, et ensuite une discussion par rapport au travail de Jésus et avec beaucoup de liens entre Jésus et son père. Chapitre 6, on a un miracle et une discussion, la multiplication des pains donc, et une discussion sur le pain de vie. Et beaucoup aussi en rapport avec son père, le père de Jésus, Dieu. Je vais commencer la lecture, donc page 691, Jean chapitre 6, je commence au verset 25. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent, « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel signe miraculeux fais-tu donc ? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu ? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Comme cela est écrit, il leur a donné... le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Je continuerai plus tard, je veux juste prier pour que Dieu ouvre nos cœurs à sa parole. Seigneur mon Dieu, on veut se placer devant toi, on veut écouter ta parole, et savoir faire le tri entre ce qui vraiment vient de toi, ce qui vient de ta parole et ce qui serait superflu et pas nécessaire à garder. Je te prie de m'aider à avoir les idées claires, l'esprit clair et à dire clairement ce que tu veux qu'on comprenne à travers Jean 6, Seigneur. Amen. Déjà, on voit au début que Jésus ne répond pas vraiment à leur question pour comment es-tu venu ici. Il ne répond pas. Mais par contre, quand Jésus commence une phrase par en vérité, en général, après, c'est du lourd. Hein. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas vrai, mais que là, c'est très important. Tout le reste est important, et là, c'est très important. En fait, c'est un peu comme si tu apprends le judo avec Teddy Riner. Je ne sais pas si vous le connaissez. 10 fois champion du monde, je crois. 10 fois, hein, c'est ça? Tout est important si tu apprends le judo avec Teddy Riner. Mais si, à un moment, il te dit, là, aujourd'hui, là, maintenant, je vais te donner la clé pour gagner au judo. Là, tu écoutes, je pense. Ou si, Ronald Nidio te dit la même chose. Là, je vais te donner vraiment une clé pour mettre le pénalty à chaque fois. Ou si c'est Barack Obama qui te dit je vais t'expliquer comment avoir la classe. Bon, bref. Et il y a ici plus que Obama. Il y a ici plus que Teddy Riner ou que Ronaldinho. Donc, quand Jésus dit en vérité, on ouvre les esgourdes, on écoute. Le truc très important ici, c'est la table est bancale. Pardon pour l'enregistrement. Le truc très important ici, c'est vous chercher la nourriture, mais chercher celle qui est éternelle, pas celle, enfin chercher la vraie nourriture, celle qui vient de Jésus et donc qui vient de Dieu. Donc j'ai dit plutôt que Jésus a peur qu'ils viennent le faire roi pour de mauvaises raisons, qu'il veut voir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Et là, effectivement, on voit ce qu'ils ont vraiment dans le ventre, c'est un sandwich aux sardines qu'ils ont mangé hier. Donc la mauvaise raison pour le faire roi, c'est qu'ils sont rassasiés, ils ont le ventre plein. Et Jésus veut leur dire, ce n'est pas de bien manger qui est important, ce n'est pas d'être rassasié. Ce qui est important, c'est la vraie nourriture. Pas celle qui ne nourrit que le corps. Si vous avez remarqué, il y a une chose qui est un petit peu choquante, c'est qu'il cite la Bible, il c'est au pluriel, je parle des ses interlocuteurs, je l'ai perdu, ils citent la Bible, ils disent, cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. Et Jésus leur dit, non, c'est pas vrai. C'est choquant, ils citent la Bible. Et en fait, ils citent la Bible, mais on a l'impression que dans leur esprit, c'est Moïse qui a donné le pain du ciel. Parce que c'est Moïse qui a donné la manne. Enfin, c'est Moïse qui était le porte-parole de Dieu à ce moment-là. Or, bien sûr, ce n'est pas Moïse qui a donné le pain du ciel. C'est l'Éternel qui leur donne le vrai pain du ciel. Et d'ailleurs, si on prend les passages qui sont cités, si vous avez une petite note en bas de page, vous allez voir le psaume 78, le psaume 105, c'est bien de l'Éternel qu'on parle. C'est l'Éternel qui donne le pain de vie. Donc, ils rectifient un peu ça. Mais surtout, il veut leur montrer que le miracle de la manne, comme celui de la multiplication des pains d'ailleurs, ce sont juste des préfigurations de quelque chose de bien mieux. Et ce quelque chose de bien mieux, c'est lui, c'est Jésus. L'incarnation de Jésus, Dieu qui se fait homme, qui descend du ciel pour venir sur la terre, c'est un miracle bien plus énorme que le don de la manne qui était certes miraculeux, ou que de nourrir 5000 hommes avec combien, 5 pains et 2 sardines. C'est un miracle, mais ce n'est rien à côté de Jésus qui se fait homme, qui vient vraiment du ciel et qui est vraiment une nourriture. Excuse-moi, Wilman.
Ce n'est que temporaire.
Et la manne n'était que temporaire. Les 5 pains, et etc. Et ça nous fait penser aussi, peut-être, si vous connaissez bien l'Évangile, vous avez en tête, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a aussi un verset, je pense que c'est dans l'Épître aux Romains. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice et la paix. Romains 14, vous le regarderez. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est bien plus important que manger et boire. Et encore une petite remarque sur cette partie. Leur réflexion, elle me fait penser à celle. Ils disent, excusez-moi, c'est le verset 34, ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Ça me fait penser à ce qu'on a vu au moment de Jean 4, où quand Jésus lui dit, si tu bois de cette eau, celui qui boit de cette eau n'aura jamais soif. Elle dit, mais donne-moi toujours cette eau, afin que je ne vienne pas pour puiser. C'est la même réaction, et c'est une réaction qui est bonne, même si on voit qu'ils n'ont pas tout compris, ils restent un petit peu dans le premier degré. Mais ils ont compris qu'ils ont besoin d'une nourriture qui rassasie vraiment. Et là, la vraie nourriture, c'est clair, c'est Jésus. Et ça veut dire que la vraie vie, c'est Jésus. La nourriture, c'est... Quand on parle du pain, c'est dans le sens du pain quotidien, dans le sens de la nourriture. C'est vraiment c'était l'aliment de base de la nourriture. Donc, quand on parle du pain, c'est la nourriture. Donc Jésus est indispensable à la vie. En bonus de cette partie, juste à un moment, il s'écarte un peu du sujet, il chope un mot qui leur plaît, ils entendent travailler. Jésus leur dit travailler. Et donc il chope ce mot parce que ça revient sur quelque chose qu'ils comprennent mieux, qu'ils appréhendent mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être agréable à Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Quel travail je dois faire? Et il semble même qu'ils n'ont pas de doute sur leur capacité à y arriver. Dis-moi juste ce que je dois faire, je vais faire l'œuvre de Dieu. Mais Jésus les remet sur les rails à ce moment-là, il leur dit, les œuvres que Dieu attend de nous, déjà ce n'est pas les œuvres, c'est une œuvre. Ce n'est pas des. Puis en fait, même, c'est même pas une œuvre, c'est juste, entre guillemets, juste de croire en Jésus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un de ces messages, JB, il y a quelques dimanches, disait ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas qu'on arrête de fumer, ce n'est pas qu'on respecte les limitations de vitesse ou qu'on se mette en règle par rapport à notre situation maritale ou quoi que ce soit. Ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on croit en Jésus, qu'on soit sauvé. Je vais lire la suite. Je vais lire à partir du verset 37 jusqu'au verset 47. Jésus est son Père. Verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Alors, j'ai sauté deux lignes, je vous demandais dans ces petits passages de relever une chose qui vous gêne, une chose qui est particulièrement remarquable, et puis simplement la volonté de Dieu. On va connaître la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qui vous gêne là? Il n'y a rien qui vous gêne dans ce qu'on vient de lire? Ça gêne personne. Bon. Tant mieux! Moi, ce qui me gêne, c'est deux choses qui ont l'air un peu contradictoires, on entend. Tous ceux qui croient ont la vie éternelle. Mais on entend aussi, seuls ceux que Dieu attire peuvent venir à lui. Bizarre. Et l'expression également au verset 37, ceux que le Père me donne. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je croyais que tout le monde pouvait être sauvé. Mais si Dieu ne m'attire pas, alors qu'est-ce que je vais faire? Donc, je ne veux pas refaire ici le message sur l'élection. Il avait été fait il y a un an environ. Vous le retrouverez sur église-répond.com. Avec un moteur de recherche, Mathieu. Hein, on tape élection, ça marche? Ouais. Mais je vais juste redire ce que nous comprenons de la Bible sur ce sujet. un sujet difficile. Mais nous comprenons que Dieu juge chacun selon ses œuvres, pardon. Et que sur cette base, tous sont condamnés. Tous. Et nous comprenons que le salut est offert à tous, ça c'est clair aussi. C'est le quiconque, dans Jean chapitre 3, on l'a vu il y a quelques dimanches, quiconque. Quiconque, ça veut dire tous ceux qui croient en lui, ont la vie éternelle. Donc le salut est vraiment offert à tous, c'est clair. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, c'est dans Jean 3, deux fois. C'est ici, on vient de le lire. C'est ici deux fois aussi, je crois. Et il n'y a pas d'autres conditions. Voilà. L'homme est entièrement responsable d'accepter et de refuser la grâce de Dieu. Et nous comprenons aussi que même la capacité de répondre à l'appel de Dieu est un don de Dieu. Et que Dieu a élu des hommes pour les sauver, et ceci, il l'a fait avant la fondation du monde. Je vous renvoie à Éphésiens chapitre 1, par exemple. Et donc, même si du côté de Dieu, ça semble être une élection dans le sens où Dieu aurait élu des hommes depuis toute éternité, et c'est le cas, c'est ce qu'on affirme, mais vu du côté de l'homme, c'est vraiment un salut offert à tous. Vu de notre côté, on ne va pas forcément chercher à rentrer dans la pensée de Dieu, c'est un peu difficile. Restons dans notre compréhension, le salut nous est offert. Il y a une image que j'aime beaucoup, c'est l'image d'une auberge, où la porte, au-dessus de la porte, il est écrit « Entrez tous ». Et donc, quand vous entrez dans l'auberge, il y a une banderole sur laquelle il y a marqué « Bienvenue aux élus ». D'accord ? Je ne sais pas si ça vous parle, moi ça me parle cette image. Entrez tous, tout le monde peut entrer. Et quand on entre, ben on sait, on comprend que ben qu'on est un élu, que Dieu nous a élus. Et on ne sait pas pourquoi, mais c'est classe. Donc revenons au cœur du sujet de ce chapitre. Et ce qui est remarquable, alors bien sûr c'est Jésus, il est au centre de ce chapitre, il est au centre de l'évangile bien sûr. Mais on remarque qu'il fait toujours référence au Père. Comme dans Jean 5, souvenez-vous dans Jean 5, comme le Père, le Fils également. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Ici, il y a plus de 12 mentions du Père dans ce chapitre 6. Dans le chapitre 5, il y avait plus de 15 mentions du Père. Quand Jésus parle de lui, il parle du Père. Il ne peut pas faire autrement. Il affirme encore ainsi son origine divine. Il affirme sa provenance. Il vient de Dieu. Il vient du Père. Et là aussi, ça coince d'ailleurs. Là aussi, ça choque encore. Certains ne veulent pas croire qu'il est descendu du ciel parce qu'ils connaissent son papa terrestre, Joseph. Ils connaissent Marie. Ils connaissent ses frères et sœurs. Mais on constate aussi, avec cette accumulation de mentions au Père, on constate que Jésus n'est rien sans le Père. Je ne crois pas que ce soit blasphématoire de dire ça. Ils sont un. Jésus n'est rien sans le Père. Et nous alors ? Ben nous, encore moins, on n'est vraiment rien. Sans Jésus, on est rien. Sans Jésus, sans Dieu. On ne peut pas vouloir de la chrétienté sans Jésus, sans Jésus le Sauveur. On ne peut pas vouloir le Fils sans le Père. Et on ne peut pas vouloir le Père sans le Fils. C'est indissociable. Et il y a aussi un petit bonus dans cette partie. Vous savez, à chaque fois, je donne un petit bonus. C'est le petit plus qu'on apprend, qui n'est pas vraiment dans le cœur du sujet. Mais là, on apprend le Graal de tous les chrétiens. Vous connaissez, vous savez ce que c'est le Graal de tous les chrétiens ? Le Graal tout court ? Bon. Le Graal de tous les chrétiens, c'est de connaître la volonté de Dieu. On aimerait ça. Et je pense que c'est aussi le Graal de tous les non-chrétiens. Et donc, qu'est-ce qu'elle est la volonté de Dieu ? On l'apprend ici. Que celui qui croit au Fils est la vie éternelle. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pas compliqué. Pas besoin d'attendre qu'il y ait un Dieu ou un ange qui vienne dans notre chambre au milieu de la nuit pour nous dire « C'est avec elle que tu dois te marier, c'est tel boulot que tu dois faire, c'est ça et c'est ça. » Donc, comme je l'ai dit dans le bonus de la première partie, le plus important, surtout si on n'est pas, si on n'a pas encore Jésus comme sauveur, le plus important, c'est pas d'arrêter de fumer, c'est pas de renoncer à ci ou ça, mais c'est de croire en Jésus pour être sauvé. On revient au pain de vie, avec le verset 48. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi, celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts. Mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Donc on revient sur le pain de vie, on ne l'a pas trop quitté d'ailleurs, on en a parlé tout le long. Mais là, en plus trash, en plus bizarre, un peu gore même. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces versets? On a l'impression que Jésus en rajoute, il en remet une couche, il pousse le bouchon un peu plus loin pour voir qui va tenir le coup, qui va craquer. On dirait qu'il augmente petit à petit le choquant. Dans le chapitre 5, il a choqué les pharisiens, il a les pharisiens contre lui. Et là, dans le chapitre 6, bon, on va le voir juste après, mais vous le savez, il a choqué même ses disciples. Il faut dire que boire le sang, c'est trash déjà, mais pour les juifs, ça l'est encore plus. Il y avait une règle très très importante. Quand on voulait manger de la viande, il fallait tuer l'animal, évidemment, mais il fallait le tuer en l'égorgeant. Et il fallait vider son sang sur une pierre, il fallait égorger sur une pierre pour bien vider son sang. Que ce soit un bœuf ou un oiseau, quoi que ce soit, il fallait le vider de son sang. On n'avait pas le droit de manger le sang. Mangez pas de boudin. Alors, boire un verre de sang, alors je pense qu'ici personne n'a envie de boire un verre de sang. Donc on peut y voir une apologie du cannibalisme ou même du vampirisme, ou alors on peut se dire non, là il parle juste de la Sainte-Seine, mais non, c'est ni l'un ni l'autre. Alors concernant le cannibalisme, je n'argumenterai pas plus, je pense, c'est pas la peine. Et pour la scène, alors d'une part elle n'a pas encore été instituée par Jésus, c'est un peu plus tard, chapitre 13. D'autre part, cela sous-entendrait qu'il est nécessaire de prendre la scène pour être sauvé, pour avoir la vie. Ça, c'est gênant un peu par rapport à ce que j'ai dit juste avant, ce que j'ai dit qui était tiré de la Bible, bien sûr. Donc, il ne s'agit pas de la scène, mais... Alors, plutôt, la scène en est le symbole. Ou plutôt, dit autrement, Jean 6 ne décrit pas la scène, mais c'est la scène qui parle un petit peu de ce qui est décrit ici dans Jean 6. Et pour être clair, le pain et le vin ne deviennent pas le corps et le sang de Jésus lorsqu'on les avale. Ça, c'est une doctrine qui s'appelle la transsubstantiation. Pas besoin d'en savoir plus si vous ne la connaissez pas. Simplement, sachez que c'est faux. Le pain et le vin que l'on va prendre tout à l'heure pour se souvenir de la mort de Jésus, ça ne devient pas le corps de Jésus quand on l'avale. Ça ne devient pas le sang de Jésus quand on le prend. Ce sont des symboles. Pour revenir au salut, au sujet du salut qui serait lié à la scène, on sait de source sûre, c'est Jean 3, c'est ici, Jean 6, que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle, sans autres conditions, ni le baptême, ni la scène, qui sont des gestes d'obéissance à Dieu pour les personnes qui sont sauvées. Donc on peut en déduire que manger sa chair et boire son sang, c'est quelque part croire en Jésus. Mais comme tout le monde a bien compris ce qu'on a vu en Jean 3 ou un peu avant, il doit maintenant préciser ce que veut dire croire en Jésus. Ce n'est pas juste une idée, ça engage tout l'être, c'est manger Jésus à chaque petit-déj. C'est choquant, c'est radical. Il ne s'agit pas de croire comme comme les démons qui croient en Dieu et qui tremblent, ça c'est dit aussi dans la Bible, ou comme oui, je suis croyant, c'est important d'avoir une de croire en quelque chose, hein, n'est-ce pas?
Ouais.
En fait, vous pouvez faire un test si vous êtes croyant, vous pouvez faire un test pour savoir si vous êtes assez radical. Est-ce que vos copains de classe, est-ce que vos collègues de boulot, est-ce que vos voisins disent de vous, c'est un gars bien, il est chrétien, mais à part ça, il est normal, hein? Ou bien est-ce qu'ils disent que vous êtes un fou? S'ils ne pensent pas que vous êtes un fou, alors peut-être c'est que vous ne leur avez pas assez dit la vérité, qu'ils ne savent pas tout, ou alors c'est que vous n'êtes pas assez radical. Ah mais, tu vas à l'église tous les dimanches? Ah quand même, ouais. Ah mais, tu te lèves un peu plus tôt, tu mets ton réveil plus tôt tous les matins pour lire la Bible? Ah oui, quand même. Ah mais carrément, ne me dis pas que tu crois à la création en 6 jours. Ah mais tu crois ce qui est dans la Bible? Ah ouais, là, quand même, ouais. Mais t'es un fou, là. Tu crois au déluge? Tu crois... Non, Jonas dans le poisson. Non, ça, tu crois pas, quand même, dans la baleine. Ce qu'ils disent, la baleine, hein. Donc forcément, ça peut pas, parce que la baleine, elle a des fanions. Hein.
Des fanons.
Des fanons? Ah oui, les fanions, c'est les petits drapeaux. Merci. Merci de me corriger. La baleine a des fanons, donc évidemment. Mais bon, déjà dans la Bible, c'est marqué un poisson, c'est jamais marqué une baleine. Tu crois à Jonas dans le poisson? Ah mais, tu donnes 10% de ton salaire pour l'église? Ah oui, non, vraiment là, t'es un fou. Donc peut-être c'est qu'ils ne le savent pas, c'est qu'ils ne savent pas assez ce que vous vivez, ou alors c'est que vous n'êtes pas assez radical. Est-ce que vous avez remarqué comme vos amis, vos collègues respectent très facilement un musulman qui ne mange pas de porc, mais par contre il fait tout le reste. Il boit, il fume, il fait la fête, il est normal quoi. Mais juste il mange pas de porc. On respecte ça. Oui, c'est sa religion, c'est bien. Mais à part ça, il est normal. Excusez-moi. Peut-être tu peux baisser le micro. Pas la peine que ce soit enregistré, tu peux remonter, excuse-moi. Pas la peine que ce soit enregistré. Donc on respecte facilement quelqu'un qui n'est pas radical en fait. Je critique pas les musulmans, je parle de quelqu'un qui n'est pas radical. Un chrétien, un musulman, un catholique, un protestant qui... Ouais, je crois en quelque chose. Croire sans manger Jésus tous les jours, c'est pas croire. Sans bouffer la Bible, c'est pas croire. Sans le bouffer, comment ?
Littéralement,
on dit ah oui, il bouffe son Jésus tous les dimanches. Ouais. Alors l'expression n'est pas jolie, l'expression est péjorative, mais si ça change pas notre façon de vivre, ce n'est pas croire, c'est une religion. Et une religion, enfin, on ne veut pas de religion ici, on ne veut pas de religieux. C'est un peu une autre image, celui qui croirait que de boire une cuillerée d'huile de foie de morue peut le guérir de sa maladie mortelle. Il le croit. Mais il ne le fait pas parce que quand même c'est très très mauvais l'huile de foie de morue. Ça pourrait le guérir de sa maladie mortelle. Donc ça c'est ce qu'on appelle un croyant non pratiquant. Déjà rien que l'expression croyant non pratiquant ne devrait pas exister. Mais je crois que Dieu existe, mais je ne cherche pas à avoir de relation avec lui parce que je n'ai pas le temps, ni l'envie, et puis j'ai des choses plus importantes à faire. Mais si Dieu existe, si Dieu nous a créés, et qu'il veut rentrer en relation avec nous, qu'il veut rétablir la relation avec nous qu'on avait brisée par notre rébellion, et s'il l'a rétabli en Jésus, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Jésus, le vrai pain de vie, nous devons nous l'approprier au plus profond de nous-mêmes. Cela doit changer radicalement notre cœur, notre être, notre vie, nos comportements. Se nourrir de Jésus, c'est le connaître, et avoir envie de le connaître, encore, plus. Et si vous n'avez pas envie, bah, demandez-lui de vous aider, de vous donner l'envie d'avoir envie. Non, je ne saurais pas, je ne chanterai pas assez bien. Le connaître, c'est lire la Bible, bien sûr, c'est prier, c'est être en relation avec lui. Donc peut-être lire la Bible, vous levez un peu plus tôt pour la lire, mais peut-être aussi juste écouter la Bible. Il y a la Bible en audio, vous pouvez l'écouter dans la voiture, dans le casque si vous prenez le métro. c'est aussi venir au culte. Jésus est le pain de la vie et c'est une nourriture, c'est bien plus que la nourriture terrestre. On doit nourrir notre vie de la personne de Jésus, de la connaissance de Jésus. Ces paroles ont plus d'importance dans ma vie que celles de n'importe qui d'autre. Donc quand Jésus dit que le mieux pour moi, c'est, de me garder pur pour la femme qui va partager ma vie, toute ma vie, et ben c'est plus important pour moi que mes potes qui me disent « Non, tu verras, c'est cool d'avoir des copines. C'est vachement bon. » Eh ben non. Ou c'est ce que dit Jésus est plus important que les magazines qui me disent si ton conjoint il est pourri, t'en prends un autre. Si tu peux pas rester avec un conjoint pourri. Ou quand Jésus dit que j'ai de la valeur, ou quand Dieu le dit dans le psaume 139, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Quand Jésus dit ça, enfin c'est Dieu qui, c'est David qui, Dieu qui parle par la bouche de David, c'est pas Jésus, hein, mais c'est Dieu. Quand Dieu dit ça, mais ça a plus d'importance que le miroir qui me renvoie. Non, t'es moche. Donc sans Jésus, je ne vaux rien, mais avec Jésus, j'ai une valeur immense. Je vais lire les réactions à ces propos à partir du verset 60. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, l'homme ne n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un diable ?» Il parlait de Judas l'Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir, lui, l'un des 12. Donc là, on voit deux réactions à ces propos choquants. Et vous ? Les disciples se retirent là. Et vous ? De l'autre côté, les 12, et notamment Pierre, ou par la bouche de Pierre, nous croyons et nous savons, je mets l'accent là-dessus, parce qu'ils croient et ils savent que tu es le Messie, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Donc oui, face à Jésus, il y a un choix à faire, on ne peut pas juste dire c'est cool. Il y a une décision à prendre, une décision capitale, lourde, qui change le cours de notre vie. Je sais que ma vie serait complètement différente si je n'avais pas cru en Jésus le Messie. Et ça change aussi le cours de notre éternité. Et je sais que mon éternité serait complètement différente si je n'avais pas fait ce choix. Et donc à la fin de cet enseignement, dans la synagogue de Capernaum, il y a trois types de personnes. Il y a ceux qui ont accepté Jésus comme le Christ, qui se sont sauvés et qui seront avec lui pour l'éternité. Il y a ceux qui ont décidé que non, c'était pas lui, et qui seront loin de Dieu pour l'éternité. Loin de Dieu pour l'éternité. Ça s'appelle l'enfer. C'est horrible. Et puis, la troisième catégorie, les indécis. Ceux qui sont simplement rentrés chez eux en disant « on verra demain ». Et ils iront où, ceux-là ? Loin de Dieu pour l'éternité. En fait, il n'y a que deux catégories, hein, du coup. Et vous ? Quand Jésus dit, au verset 65, « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Certains se retirent parce qu'ils se disent, moi, je n'ai pas dû recevoir ce don, je n'ai pas le don de croire. C'est cool que tu l'aies, moi je ne l'ai pas. Certains se retirent. Et vous ? Eh bien, si vous pensez que vous ne l'avez pas, prouvez au contraire à Dieu, prouvez à Dieu que vous l'avez. Entrez dans l'auberge et vous verrez que que ce, vous, ça, bienvenue, bienvenue aux élus, que ça, cela a été, vous a été donné par votre Père. Prouvez-lui, montrez-lui que vous êtes appelé aussi, que vous êtes attiré par Dieu, parce que Dieu vous attire aujourd'hui. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Est-ce que vous mangez Jésus tous les jours? Pourquoi c'est si choquant? Pourquoi Jésus choque? Il veut voir qui est prêt à le suivre sans forcément tout comprendre. Montrez-lui que vous êtes prêt. C'est radical, on ne peut pas concilier la foi et la raison. La Trinité, c'est incompréhensible. La personne de Dieu est incompréhensible. L'élection, ses voies, c'est incompréhensible. Les liens entre Jésus et son Père sont décrits plein de fois, mais ça reste incompréhensible. Manger sa chair et boire son sang, c'est incompréhensible. Mais faites-le juste, faites-le.